Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mercredi 11 mars 2026. Pour être honnête, si vous vous posez devant un écran de trading et que vous regardez bouger le pétrole depuis 3 jours, il y a un mot qui vient à la bouche. Magic Circus. Ouais, bon, d'accord, ça fait 2 mots, mais moi, non seulement j'ai ces 2 mots qui me viennent à la bouche, mais en plus, j'entends la musique dans mes oreilles. Le pétrole va absolument dans tous les sens depuis le début de la guerre en Iran, mais depuis lundi, on est passé en mode Champions League. Lundi, c'était du plus 35, moins 35%, et hier, c'était du plus 10, moins 10. Si on est objectif, on dira qu'hier, c'était moins pire, mais c'était quand même du tout grand, n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, pour noyer le poisson de l'opinion publique, Trump avait laissé entendre qu'il allait publier tous les documents relatifs à une vie extraterrestre que le gouvernement avait en sa possession. Jusque-là, aucune trace d'E.T., de Alf ou d'un quelconque alien qui aurait débarqué depuis une lointaine planète inconnue. Mais une chose est certaine, si, dans l'hypothèse la plus déjantée possible, il y avait une forme de vie extraterrestre là-dehors et qu'en plus, elle prenait le temps de nous observer, le spectacle qu'on donne en ce moment ne doit pas vraiment lui donner envie de prendre contact. Non, parce que personnellement, si j'étais un néophyte total et que je suivais les marchés depuis le début de la seconde ère Trump, je crois que je commencerais à me dire que non seulement le gouvernement américain est dirigé par une tripotée de débiles mentaux à un stade très avancé, mais en plus, à voir comment les bourses et les marchés financiers internationaux réagissent à la moindre déclaration d'un de ces clowns qui passe son temps dans le périmètre de la Maison-Blanche. Je commencerai à me poser des questions et à me demander s'il y a encore la moindre rationalité dans ce qui se passe. Et puis, quand on apprend que Trump vient de nommer la veuve de l'activiste Kirk à un poste dans l'US Air Force, on se dit qu'on n'a pas complètement tort de penser que nous sommes dans un cercle tellement ridicule que même Las Vegas est jaloux. Et hier, c'était encore la même chose, une journée tellement agitée qu'à la fin, les marchés ont fini presque exactement là où ils ont commencé. Tout ça pour ça. Si j'avais su, j'aurais pas venu. En clôture, le Dow Jones a reculé de 34 points, soit 0,1%. Le S&P 500 a perdu 0,3% et le Nasdaq faisait le mort. Bref, des milliers de traders qui ont pagayé dans tous les sens pour en arriver là. Un résultat aussi spectaculaire qu'un disclaimer de 14 pages écrit en Arial 2. Mais ce qui est plus intéressant à observer, c'est ce qui s'est passé entre l'ouverture et la clôture. Non, parce qu'hier, chaque déclaration, chaque news publiée sur les écrans qui avait un lien de près ou de loin avec le détroit d'Hormuz avait le potentiel de faire bouger les indices et ou le pétrole dans absolument tous les sens et de préférence très rapidement. La vraie drama queen du jour, c'était clairement le pétrole. Depuis lundi matin, c'est le Muppet Show total sur le baril et il passe tout simplement par tous les états. On se souvenait encore que lundi, on s'est fait l'Everest sans oxygène avec descente en luge par le chemin le plus court. Et hier, on a remis ça avec l'amplitude en moins. Mais 10% dans les deux sens quand même. Si on doit reprendre la chronologie, on se souviendra que lundi, entre le G7 qui voulait taper dans la réserve stratégique et Trump qui nous annonçait la fin de la guerre pour tout soudain entre maintenant et dans 18 mois, on avait largement de quoi faire pour faire booster la volatilité du plein d'essence. Hier matin, à 5h du matin, le brut était à 91$. 4 heures plus tard, retour à 85. Après le lunch, retour à 91. Et puis, il y a eu l'histoire Chris Wright. Alors, Chris Wright, c'est le secrétaire à l'énergie sous Trump 2.0. Hier matin, il a posté un truc online mentionnant le fait que la marine américaine escortait un tanker pétrolier dans le détroit d'Hormuz. Les marchés ont adoré. Le pétrole a plongé à 76,50. Et c'était 18h30. Bien sûr, comme d'habitude, la Maison-Blanche a démenti parce que visiblement, la Maison-Blanche est mieux informée que Chris Wright, secrétaire d'État à l'énergie, et qui donc a à peu près autant de valeur qu'un emballage de frites froides chez McDo. Chris a effacé son poste, le pétrole a rebondi. Oui, vous avez tout compris, et vraiment tout compris. C'est comme ça qu'on gère l'économie mondiale sous Trump 2.0 en 2026. Et puis, comme ça aurait été dommage de s'arrêter en si bon chemin, au milieu de ce vaudeville militaro-économique, la chaîne CBS a sorti une info annonçant que l'Iran envisagerait de poser des mines dans le détroit d'Hormuz, sans blague. Les marchés ont immédiatement fait la tête, et décidé de bouder pendant que Trump, fidèle à lui-même, a sorti son plus beau style épistolaire sur Truth Social. Si des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires seront à un niveau jamais vu. C'est pratiquement le même discours que la veille. Il menace, il dit que demain ça sera pire et le lendemain c'est pire. Mais enfin, on ne sait toujours pas quoi faire avec le pétrole et les marchés. Rassurant, vraiment très très rassurant. Enfin, Toujours est-il que ce matin, à 6h45, le baril était à 84,10, que les Américains annoncent avoir coulé 16 bateaux iraniens qui étaient censés poser ces mêmes mines. Et si les Iraniens n'ont plus de matériel pour aller larguer ça au milieu de la flotte, il va falloir y aller à la nage, et ça sera plus compliqué. Surtout qu'ils risquent bien d'être confrontés à Macron en maillot de bain, en train de réguler le trafic dans le détroit d'Ormuz à la main, de façon pacifique. Bref, vous l'aurez sans doute compris, si vous avez suivi les marchés un peu plus de 5 minutes depuis 10 jours, c'est clairement le pétrole qui nous montre la voie. Je sais pas quelle voie, mais il nous la montre. Hier, avec la baisse du baril, et les marchés européens terminaient enfin en hausse, et en fin de journée, on nous parlait de mines dans le détroit, et le marché américain terminait péniblement à l'équilibre en faisant semblant de s'intéresser au CPI de tout à l'heure et aux chiffres d'Oracle qui devaient sortir après la clôture. En résumé, une journée de folie, des marchés complètement débiles qui n'ont quasiment pas bougé à la fin, sauf en Europe, mais ça c'est juste à cause du décalage horaire. Un tweet supprimé qui a failli faire toute une histoire, mais qu'à la fin, il démontre que les politiciens vont et viennent, mais qu'à la fin, c'est le président qui décide et qui dit qui, quoi et comment, quitte à inventer des news. Et puisqu'on parle de lui dans la séance d'hier, il ne faut pas oublier l'assaisonnement de toute bonne crise géopolitique mondiale. Trump qui rédige des ultimatums et des menaces sur les réseaux sociaux. Business as usual. Moi, je vous le dis, les extraterrestres existent, mais si on les voit pas, c'est juste qu'ils attendent que le management de la planète et des marchés financiers soit moins con. Et s'ils comptent là-dessus, on n'est pas prêt de les voir. Après une semaine de montagnes russes et sur les marchés de l'énergie, le pétrole a enfin trouvé un semblant de calme depuis 3 heures, et ça a fait du bien en bourse asiatique, dont les économies avalent des quantités industrielles de pétrole importé. Le Nikkei reprend plus de 2%, le Kospi est en hausse de 4% après 5% la veille, la Chine ne fait rien et le Hang Seng grimpe de pas grand-chose. Le grand gagnant de la journée, c'est la Corée du Sud avec son Kospi qui enchaîne une deuxième journée de hausse musclée. Les Japonais ne sont pas en reste non plus. Il n'y a pas d'urgence à mettre le champagne au frais. Personne ne croit vraiment que la situation au Moyen-Orient est réglée. Les tensions géopolitiques sont toujours là et bien installées à attendre le prochain tweet débile qui sortira. Et puis, tous les regards sont tournés vers la sortie des chiffres de l'inflation américaine, le fameux CPI, ce mercredi. Pourquoi ? Parce que si l'inflation est encore trop haute, la Fed n'aura aucune raison de baisser les taux directeurs. Et ça, les marchés n'aiment pas du tout. Pour l'instant, les chances d'une baisse des taux la semaine prochaine sont quasi nulles, bien sûr. Mais les chiffres du jour pourraient rebattre les cartes pour les mois à venir ou les refermer définitivement. Mais attention, sur le mois de février, le baril était quand même à près de 20 dollars plus bas que là où il se trouve ce matin. Le chiffre qui sortira tout à l'heure ne veut donc pas dire grand-chose puisqu'il sera immédiatement remis en question. L'Asie profite d'un répit sur le pétrole pour souffler un peu. La Corée et le Japon font la fête prudemment et tout le monde attend l'inflation américaine pour se donner un genre. L'or est à 5211, le rendement du 10 ans est à 4,14, la Banque du Japon a bien l'intention de monter les taux. Et le Bitcoin est à 70 000 dollars. Bon, ce matin, je vais vous faire un cadeau. On ne va pas parler du pétrole de l'Iran et du détroit d'Ormuz pendant au moins 12 secondes. Oui, parce qu'hier soir, il y avait les publications trimestrielles d'Oracle. Et comme vous le savez, comme je vous le disais hier, Oracle, c'est le vilain petit canard de l'IA qui a ou qui aurait dépensé trop de fric. Hier soir, c'était le juge de paix, la décision qui ferait qu'on allait se dire que finalement, c'est un bon business et ça vaut la peine d'être surendetté dans tous les sens, ou que ce qu'Oracle a fait, c'est quand même bien de la merde et que ça pue. Hier soir, Oracle a publié des résultats meilleurs que prévu et le marché a immédiatement applaudi. Bénéfice 1,79$ par action contre 1,70$ attendu, revenu à 17,2 milliards et une action qui prenait 8% after close. Mais la vraie histoire ne se trouve pas dans les chiffres trimestriels, elle se trouve dans la transformation. Pendant des années, Oracle était considéré comme un vieux dinosaure du logiciel d'entreprise, une boîte solide, rentable, avec une croissance aussi excitante qu'un rapport d'audit ou que le bilan de Lehman Brothers en 2014. Entre 2012 et 2020, les ventes progressaient à peine de 1% par année. Aujourd'hui, le groupe est en train de se réinventer autour du cloud et de l'intelligence artificielle. Le cloud représente désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires et la croissance est impressionnante, plus 44% avec l'infrastructure cloud. Les serveurs utilisés pour l'IA qui explosent de 84%. En clair, Oracle est en train de devenir un des fournisseurs de puissance informatique pour la ruée mondiale vers l'IA. Et les commandes suivent. Le carnet atteint désormais 553 milliards de dollars, dont environ 300 milliards liés à un contrat avec OpenAI. Mais construire l'infrastructure de l'IA coûte une fortune. Oracle a dépensé 19 milliards dans ses data centers sur le trimestre et a dû ajouter 27 milliards de dettes, portant l'endettement à environ 135 milliards. En résumé, Oracle est en train de parier très très gros dans la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, la croissance est spectaculaire. La seule question qui reste ouverte est assez simple. Est-ce qu'Oracle construit la prochaine autoroute mondiale de l'IA ? ou la facture d'électricité la plus chère de la Silicon Valley. Non, parce que autant il y a 3 mois, on se faisait dessus rien qu'à regarder la taille de la dette, autant hier soir, personne n'en parlait. Ah là là, cette foutue mémoire de poisson rouge qui fait défaut. Vous voyez, ça fait super bizarre de ne pas parler ni guerre ni pétrole. On ne sait plus comment faire. Ça tombe bien, on y retourne, parce que du côté pétrole, l'EIA propose également d'utiliser ses réserves pour contrer le blocage du détroit d'Ormuz. Et tôt ce matin, un cargo vient d'être touché par un missile d'origine inconnue. Et les Iraniens déclarent avoir frappé des intérêts américains et israéliens comme jamais. C'est quand même extraordinaire parce qu'à écouter Trump, les Iraniens se battent avec des lance-pierres parce que c'est tout ce qui leur reste. Tous les jours, on nous annonce que les Iraniens n'ont plus de marine, mais tous les jours, on leur coule encore des bateaux. Comme s'ils poussaient pendant la nuit, et tous les jours, les Iraniens continuent de tirer des missiles et font voler des drones. Il y a forcément quelqu'un qui ment quelque part, et là, tout de suite, je ne vois pas à qui on pourrait faire confiance. En conclusion, nous en sommes au même point qu'hier. Le détroit n'est pas vraiment fermé, mais pas vraiment ouvert non plus. Le G7 et l'EIA sont prêts à allumer des contre-feux pour empêcher le pétrole de monter trop haut. La guerre est presque finie, mais personne ne connaît la définition du mot « presque ». Et Trump peut faire bouger le baril de 10% simplement en disant « bonjour ». Les futurs sont en hausse de 0,3%, le baril est à 83,71 et cet après-midi, l'inflation devrait sortir à 2,5%, mais ça ne voudra pas dire grand-chose tant qu'on n'a aucune visibilité sur le baril et la presque fin de guerre. Belle journée à tous et à demain.